Les 27e rencontres d'art contemporain du château de Saint-Auvent.
On nous dit quelquefois, alors c'est la 27e rencontre, les 27e rencontres. Alors on nous pose souvent la question, mais pourquoi faites-vous ça? Pourquoi organisez-vous des expositions de cette sorte, considérant le peu de moyens qui sont à votre disposition et voilà. Alors je réponds, nous répondons, Annie Gossel, c'est pas seulement pour l'amour de l'art, c'est pas seulement pour l'amitié que nous avons pour les artistes, mais c'est évidemment parce que pour nous, c'est un engagement de faire en sorte que des gens puissent se rapprocher, surtout des artistes qui ont de grosses difficultés, vous savez, pour exposer. Parce qu'on raconte que c'est simple, mais c'est difficile de trouver des lieux. Donc on ouvre ce lieu pour que des gens qui ne sont pas connus puissent être connus. Souvent, dans les lieux plus importants, ils sont déjà connus, donc c'est moins intéressant de les faire connaître puisqu'ils sont déjà connus.
Je m'appelle donc Annick Debien, donc avec Pierre, donc mon mari, on a créé en 96, il y a donc très longtemps maintenant, les rencontres d'art contemporain du château de Saint-Auvent. Et cette année, c'est la 27e rencontre donc d'art contemporain du château de Saint-Auvent. Et on a invité 50 artistes, 12 nationalités, et à chaque fois on lance un thème, et le thème c'est les lumières des villes d'ici et d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. C'est ainsi qu'on a un invité d'honneur qui est un artiste finlandais qui est Ari Largosto et qui donc lui va exposer à l'intérieur donc du château plusieurs œuvres qu'on a reçues qui sont bien sûr des impressions puisque lui-même peut imprimer son travail, ses peintures sur une grande imprimante et on a reçu ça comme ça. D'autre part, je voudrais ajouter que la municipalité de Saint-Auvent s'est vraiment investie et elle a donc dans le bourg pu, pour l'instant, il y a 3 panneaux qui rappellent comment était Saint-Auvent avant, un bourg où on avait quand même 2 boulangeries, on avait 3 épiceries, on avait un cordonnier, on avait beaucoup de commerces, des halles avec des foires importantes et donc beaucoup de gens, beaucoup d'enfants pour aller à l'école. Et si aujourd'hui on peut parler et on peut imaginer qu'à l'avenir il y ait des suppressions de postes, à cette époque-là, ce n'était pas le cas.
Est-ce que nous pouvons revenir à l'artiste finlandais? J'ai eu un aperçu bref de cet ouvrage. Donc c'est comment, un hommage aux abeilles?
C'est peut-être un hommage aux abeilles, c'est-à-dire qu'on se trouve devant cette impression qu'il a faite de son travail devant un projet d'une monumentale sculpture qui va être mise en 2026 dans le parc attenant à l'aéroport d'Helsinki. Et comme vous disiez, donc c'est un hommage aux abeilles puisque ça représente en fait comme un rucher, mais on n'a pas des alvéoles, des ronds, parce que c'est l'utilisation de tuyaux qui permettent d'alimenter les habitations d'un quartier en chauffage. Et donc ce sont effectivement de la récupération, et c'est pour ça on a des ronds à la place des alvéoles qui correspondent bien entendu aux abeilles. Mais autour, il y aura des vraies ruches avec des vraies abeilles.
Annick, comment est-ce que vous avez choisi Largosto, Ari? Comment est-ce que vous choisissez l'artiste invité des rencontres annuelles, estivales, ici au château de Saint-Auvent?
Alors, comme ce sont des rencontres internationales, comme Pierre, donc, Debien, donc, mon mari, est artiste, on a été invité dans de très nombreux pays et on a donc un réseau d'artistes amis, mais des artistes reconnus au niveau international, comme Ari Largosto, puisque son projet a été retenu par la ville, donc par Helsinki, pour être monté donc devant l'aéroport de, enfin dans le parc attenant à l'aéroport. Donc c'est un réseau d'amis, et puis Pierre a exposé aussi donc là-bas en Finlande. Donc c'est cette espèce de relation privilégiée qu'on peut avoir avec les artistes, et qui fait en sorte que nous on a une thématique depuis toujours, c'est essayer de découvrir le traditionnel dans des expressions contemporaines. Alors la suite, c'est dans le grand salon. Il y a eu trois grandes idées qui permettent, disons, de faire la scénographie de cette exposition. Et ces trois idées, elles sont celles aussi qu'on trouve chez Harry Largiusto. C'est-à-dire, il manie à la fois la poésie, à la fois l'absurde, en particulier dans notre société, la vie dans les villes, mais on s'en sort d'une façon agréable par l'humour. Donc c'est ce qui permet de retrouver dans les œuvres qui ont été choisies ces trois éléments-là. Et le choix a été aussi de faire que les œuvres soient en conversation les unes avec les autres. C'est ainsi que, à droite, là, vous avez un artiste, l'artiste grec, Yorgos, qui est extraordinaire. Il est né à Lacanée, il habite à Lacanée, et vous avez quatre tableaux qui ont été réalisés spécialement pour l'exposition et qui vous montrent comment les monuments gardent trace de l'histoire de la ville, les Vénitiens d'abord, ensuite les Ottomans, avec une mosquée encore qui a perdu son minaret, mais qui est toujours là, et puis un phare, la proximité d'Alexandrie également, donc le phare, et puis bien entendu des jeunes qui sont là, avec une idée fondamentale, c'est de prendre des selfies. Donc c'est aujourd'hui, on ne regarde pas toujours les monuments qui se présentent, mais c'est surtout de garder trace de sa présence à tel ou tel endroit, et les selfies le permettent.
Nous avons l'opportunité de rencontrer Yorgos lors du vernissage. Je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à écouter ses propres paroles.
Je m'appelle Yorgos Dzeyanakis, je suis d'origine grecque. J'habite en Grèce, au Limousin en même temps, en Crète surtout. Puis mon travail, en fait, c'est sur ma ville de Lacanée, Chania. Où, en fait, c'est une ville construite par les Vénitiens. Il y a eu aussi le passage de Pyrotomon. Et puis, je mets toutes les traces. Et puis, aujourd'hui, avec le tourisme, tous ces bâtiments qui ont changé de rôle, c'est devenu un décor maintenant. Et voilà. Et puis, le contraste aussi des morales, vous voyez, il y a une mosquée. Les traces de Pyrotomo avec les filles en tenue plus légère maintenant, enfin, tous ces contrastes-là.
Voilà. Essayons de tracer les liens avec les territoires, les Limousins. Comment est-ce que vous arrivez ici?
C'est ma femme qui est limousine. Et comme ça, je me suis trouvé en Limousin, que j'aime autant que ma ville.
C'est où exactement?
Ça se complète, oui.
C'est où?
Ma ville, c'est...
Ici, au Limousin.
Au Limousin, on habite à Saint-Priest-sous-Aix.
Et lors du reportage que nous avions fait avec Annick, en fait, Annick a parlé de vos œuvres. Elle a expliqué un peu les scènes que nous retrouvions dedans, dont les selfies, les filles super mignonnes en face, ces scénarios complètement rêvés. Donc, pourquoi vous vous êtes inspiré de ces sujets si d'actualité? Puisque quand on regarde vos œuvres, on dit ben, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est un clin d'œil, mais avec une technique de peinture plutôt. C'est quoi votre technique, votre tendance?
Ma technique, en fait, je travaille la peinture à l'huile. Je la travaille avec un pinceau au couteau parce que j'ai envie aussi de m'exprimer en même temps avec la matière. Alors j'utilise la matière comme, pas comme une manière, mais comme un moyen d'expression, comme avec la couleur, c'est-à-dire chaque chose a sa matière. Et là d'ailleurs il y a deux tableaux qui sont basés sur le mur, en fait les traces du mur avec l'enduit qui part avec le ton, qui a été rajouté, etc. Et je le rends ça avec la matière.
Ça fait combien de temps que vous avez commencé à peindre ? C'est quoi votre parcours résumé jusqu'à aujourd'hui, à ces 27e rencontres d'art contemporain au château de Saint-Auvent ?
Mais ça fait 40 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je me consacre uniquement à la peinture. Avant, je faisais en Grèce la sculpture et la céramique. Mais bon, petit à petit, en fait, c'est la peinture qui m'a gagné.
Parce que vous avez fait connaissance avec Annick, Pierre, ici au château de Saint-Auvent.
Ben ici, on vient en fait tous les ans parce qu'il y a des expositions extraordinaires en fait. Hein, c'est très intéressant et du coup, en fait, on a fait connaissance petit à petit.
Alors, une invitation pour nos auditeurs, nos auditrices des radios assiduées pour venir visiter les châteaux de Saint-Auvent et votre ouvrage qui est très sympa.
Ben oui, je les invite parce qu'en plus, c'est une chance d'avoir ce lieu ici, en fait, dans cet endroit. C'est déjà, même le bâtiment, c'est magnifique. Il y a des expositions toujours très intéressantes. Et puis, Annick qui fait des accrochages. C'est une œuvre d'art aussi, ces accrochages. À chaque exposition, c'est... Voilà, et puis il faut absolument que les gens, bien sûr, viennent voir. Et puis revenir, parce qu'il y a tellement... C'est tellement riche qu'il ne suffit pas une seule fois. Alors là, c'est le phare de la Canée, ou c'est l'emblème de la ville. Surtout qu'elle a une histoire, parce qu'en fait, elle était construite au début par les Vénitiens, comme tout le port et toute la vieille ville. Et après, ça a été rajouté aux formes d'un minaret par les Égyptiens, en fait, pendant l'Empire ottoman. Et puis bon, maintenant, il ne sert plus, parce que ce port-là, il est plus décoratif. Il y a quelques barques, quelques petits bateaux, mais ce n'est pas le port principal de la Canée. Et il est plutôt décoratif. Alors du coup, on voit avec les personnes maintenant qui se servent comme décor pour faire leurs selfies, leurs photos. Enfin, qui les intéresse plus le visage à la limite que le phare. Enfin bon, c'est un décor. Et après, bon, il y a les traces que je vous disais tout à l'heure avec la matière que j'utilise sur les vieux murs de la vieille ville. On voit souvent en fait parce qu'il y a l'enduit qui a été... qui a été dégradé, qui ça a été rajouté. Alors, on a toutes les traces de temps sur les murs et de couleurs. Et là aussi, on a une partie de la vieille ville avec la mosquée qui a été rajoutée pendant l'Empire ottoman. Ici, au premier plan, c'était mon enfance un peu, avec tout était blanchi à la chaux. Et puis, le contraste aussi des morales avec la mosquée qui avait le moral sévère et puis les filles de tenue légère actuelle, etc. Enfin, c'est toute l'histoire de ma vie.
L'histoire de votre vie, c'est bon. C'est beau ça, l'histoire de ma vie. Et si j'aimerais qu'on puisse faire un exercice radiophonique et expliquer ou détailler les couleurs, la palette des couleurs que vous utilisiez.
Oui, ben la palette des couleurs, en fait, je mets par exemple les personnages, vous voyez, je les habillais de même couleur. Et là, c'est aussi parce que j'ai fait une unité, les quatre tableaux. C'est-à-dire leurs sacs, leurs outils, en fait, ils ont des couleurs qu'on retrouve après dans les autres tableaux.
C'est pour guider
le regard aussi d'un tableau à l'autre.
Et donner une harmonie entre
l'harmonie de la composition, mais en même temps, le personnage, en fait, ce n'est pas le personnage qui va nous intéresser, c'est leur geste, c'est-à-dire leur présence par rapport au... C'est-à-dire que c'est des touristes, c'est des gens sur place, etc. C'est pour ça que je les ai habillés plus ou moins de même couleur. C'est l'expression de leur corps, de leur geste qui compte.
C'est vrai que ce n'est pas très... identitaire, on peut le dire
c'est
comme ça. Leur tenue, c'est quelqu'un de comment.
Mais même leur visage, à la limite, ça peut être n'importe qui. C'est pas quelque chose de très exprès. J'ai mis des lunettes. Je ne veux pas attirer l'attention sur une expression précise. C'est comme en fait quand on se trouve dans la foule, on ne regarde pas précisément les gens, on les regarde comme
les monuments, dans l'occurrence.
Oui, c'est ça. Et là, c'est pareil, en fait, ce que j'ai expliqué. Et puis, bon, j'ai mis aussi les couleurs. Enfin, j'ai fait aussi mon harmonie avec les couleurs qu'on trouve sur les bâtiments, avec les sacs, les vêtements. Les gens, ils étaient très pauvres, en fait. Ils récupéraient des vieux bidons, tout ça. Ils mettaient un peu de fleurs, ils blanchaient tout à la chambre. Je trouvais ça très beau. Et puis, avec le jeu de lumière, de soleil, ça donne
et la lumière, voilà, c'est ça. Et là, cette ruelle, pour finir, oui, en beauté.
Ça, c'est une petite ruelle aussi, pareil, qu'en fait, on voit les traces de couleurs et puis de temps sur les murs, de l'époque vénitienne jusqu'à nos jours. Des choses qui ont été rajoutées, la lumière artificielle, puis la lumière du soleil qui essaye d'où. En fait, ce n'est pas la lumière artificielle qui éclaire là, c'est la lumière du soleil qui passe dans les petites ruelles. Parce que la vieille ville de Lacanais, c'était une ville vénitienne où, en fait, c'était une défense en même temps, c'est un labyrinthe. La lumière, elle rentre difficilement dedans. Et ça fait aussi cette trace comme ça.
Comment est-ce que vous trouvez l'installation articulée avec Valérie Bastide?
J'aime bien parce qu'en fait, ça, c'est un dialogue avec la foule que j'ai voulu évoquer. En fait, vous voyez, même derrière le long du phare, etc., j'ai mis plein de personnages. Et puis, il y a une suite, en fait, ici. Annick, je pense qu'elle a très, très bien l'œil, en fait. Elle a beaucoup d'expérience et puis beaucoup de talent pour faire ces accrochages. J'étais vraiment épaté. Enfin, j'ai adoré.
Ça dialogue super bien.
Oui, ça dialogue très bien, ouais. Très bien. Et puis même quand on le regarde là, c'est un dialogue avec un personnage. Et là, avec la petite ruelle qui est déserte parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse, mais j'aime bien, ça donne un peu de vie en même temps avec ce personnage. Ça dépend de quel point de vue on le regarde. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. Et puis, c'est un rapport direct avec ma ville qui est en fait, et même avec le tourisme, même avec son histoire, en fait, un passage de toutes les identités, en fait, hein, de les gens. Alors, du coup, c'est au rapport.
Alors, conversation. Donc là, c'est l'insouciance des vacances. On est au mois de juillet, on part, tout le monde s'occupe, les impôts à payer, futurs, etc., tous les problèmes de notre société, on n'en parle pas, on s'évade, on pense à rien. On est dans l'insouciance. Et en conversation, on a ici des petites sculptures qui ont été faites par une artiste de Rodez, donc du sud de la France, et qui, elle aussi, évoque cette insouciance avec lunettes de soleil, avec casquette. Là aussi, on part, on n'a pas de problème. Par contre, en opposition, on a de l'autre côté donc, du mur, une grande toile 2 mètres sur 2 de Mako Moya, qui est absolument magnifique et qui nous rappelle par contre quelque chose de tragique. Et le 6 août 45, en général, quand on fait les visites, il y en a qui se rappellent, il y en a qui ne se rappellent pas, malheureusement. Le 6 août 45, donc on va fêter entre guillemets le 80e anniversaire cette année, eh bien c'est Hiroshima. Et Mako Moya a pu vraiment, d'une façon extraordinaire, représenter la ville fantôme sur deux niveaux, deux personnages aussi un peu fantômes, et puis on a l'impression que la peau, du fait des brûlures de la bombe nucléaire, eh bien, sont en train de descendre, de couler. Mais il a mis des couleurs qui font en sorte que, bon, ben, faut s'en souvenir, faut le dépasser, mais de toutes les façons, ne pas l'oublier. Je crois que c'est un petit peu le message qu'il a dans cette superbe, magnifique, vraiment toile. Et à plus d'un titre, Hiroshima, je dirais que ça me parle.
Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron, et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix?
Ici, on peut décrire l'espace où on va rentrer. C'est quand même pas anodin comme un lieu intime.
Alors ce lieu, c'est la tour, enfin une des tours, et on est c'est attenant à la grande salle, et en quelque chose de voûté, et puis on est dans une ville, comme dans une ville blanche, et c'est Alger. Alors Alger va être évoqué par les cinq sens d'une artiste qui, quand elle est venue, elle conduit elle-même sa voiture, elle est née en 35, elle est venue avec tous ses souvenirs, et tout d'un coup, tout est arrivé, Alger, les odeurs, évidemment les couleurs, le toucher, le goût, tout un tas de choses, exactement, et elle s'est vue, tout ça est venu comme la petite Madeleine de Proust, c'est pourquoi vous avez un petit extrait à la recherche du temps perdu quand on entre dans la tour. À côté, elle va aussi rappeler, bien sûr, Albert Camus et cette très belle description d'Alger dans Noces. Alors, vous avez, quand on est dans la tour, vous avez donc le plan d'Alger à cette époque, les mâles pour partir, la découverte d'Alger, la rade, ensuite le télégramme qu'ils étaient amenés à envoyer, que sa mère va être amenée à envoyer, parce que elle, sa sœur, donc avec sa mère, vont être appelées par son père le 14 janvier 41 à le rejoindre. Son père était militaire à ce moment-là, à Alger. Et il fallait dire, c'était déjà pré-tapé, nous sommes bien arrivés, nous n'avons besoin ni de provisions, ni d'argent, le voyage s'est bien passé, Ginette et Annie c'est l'artiste, se sont comportées convenablement, donc elle avait 6 ans, Annie, nous pensons beaucoup à vous toutes, affectueux baiser de nous quatre, signé Janine, la mère d'Annie. On a également une photo de sa mère, la mode à l'époque avec des voisines, le piano parce qu'elle faisait du piano là-bas, une photo de classe où on la voit ici, et ce n'était pas une petite classe, hein, je peux vous dire qu'il y avait du monde. Elle est ici à côté donc, d'une amie qui faisait sa communion, l'église bien sûr attenante, le cinéma, Bellecour, et là vraiment... Il y a des gens qui sont passés là, et il y a quelque chose qui a fait tilt. Hein. Ils se rappellent complètement, et de Viviane Romance, puisque elle a vu le premier film de sa vie avec la célébration de la reine des Gitans. Et puis pour finir, rappel des deux bombardements de 39 et de 42. Les plantes, des oranges bien entendu, alors des plantes qui piquent, des plantes comme le bougainvillier avec au contraire la couleur, et puis également vous allez avoir Et je pose toujours la question, qu'est-ce que c'est ? C'est une gargoulette. Alors, c'est la traduction en occitan, d'ailleurs, de cruche. Alors, cruche, on boit, certes, mais on s'en sert autrement, parce que l'extérieur de cette cruche, c'est poreux, il n'y a pas de vernis. Donc, pour humidifier l'air dans les pièces, dans les pays chauds, on met de l'eau à l'intérieur, on met un linge en extérieur, et le linge va s'imbiber d'eau, et donc va humidifier l'atmosphère.
Voilà. Ça vient d'Alger aussi.
Comment ?
Ça vient d'Alger, non ? Ça vient d'ici ? Ça vient d'où ?
Ah, ça vient. Alors, elle a traversé Paris, hein, du haut de ses 90 ans, pour chercher une gargoulette. Et en plus, c'était les manifestations des taxis, donc elle a eu des difficultés à accéder au magasin.
Pour la petite histoire.
Absolument.
Bon, Sébastien, si tu as aussi des ressentis, des appréciations, les bienvenus.
Pour l'instant, j'écoute attentivement. Bon, ça va. Je regarde, c'est très clair. Bon, très clair. Très intéressant, surtout.
Bon, merci. Alors, on va passer à un autre artiste, là. C'est Dom Terrasse, qui est connu quand même, je crois, par Radio Vassivière, peut-être, qui expose souvent à Harlem, à Limoges. Et lui, bon, a beaucoup voyagé. Et en Inde, il a visité une grotte qui date de 7000 ans. Et il y avait des dessins, évidemment, rupestres. Il a reproduit ces dessins et lui-même va les reproduire sur du bambou. Et le bambou, ça sert à faire les maisons, évidemment, en Asie. C'est un matériau largement utilisé, surtout en Asie.
Est-ce que vous trouviez qu'il y a un écho ou un effet de miroir entre le travail des Dom Terrasse et le travail des Pierre Desbillons ?
Oui, il y en a. Je crois que c'est la couleur. Pierre est fasciné par la couleur et il a toujours eu quelque chose qui m'a impressionné depuis qu'on se connaît, et ça fait maintenant très très longtemps, c'est que tu vois, cette couleur-là appelle celle-ci, qui appelle celle-ci, qui appelle celle-ci, à l'infini. Et c'est pourquoi sa toile, par exemple, est complètement pleine, il n'y a pas de vide, comme un petit peu dans la nature. Les végétaux, les minéraux d'ailleurs, les animaux, nous-mêmes, on est tous liés. Et c'est un petit peu comme les couleurs, et les couleurs, c'est la vie.
Ben, je compatis, tout à fait. Alors la suite, on va parler des
musiques. On va parler de Françoise Dussault, qui est de Vendée. Voilà un tableau spécialement fait pour l'exposition. Et c'est très, très beau ce qu'elle fait, puisque comme c'est les lumières de la ville, elle va représenter, on a un premier plan, c'est le village qui va petit à petit disparaître au profit des grands immeubles qui sont éclairés par derrière. Et c'est quelqu'un qui joue toujours sur la lumière, les ombres, et son travail est magnifique. Vous en avez un autre tableau avec des oiseaux qui arrivent là aussi autour des immeubles.
Nous pouvons évoquer que ce n'est pas qu'un tableau peint, c'est la matière, des papiers sculptés, la superposition, il y a du collage.
Oui, beaucoup. Donc, ces matériaux mixtes, quoi, du carton, comme vous disiez, donc du papier, de la couleur également. Mais c'est vraiment de l'invention qui permet de voir les différents niveaux et donner relief aux différents immeubles.
C'est des découpages aussi très fins. Ça peut faire penser aussi aux stencils.
Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et puis évidemment, il y a quand même rappelé qu'une autre artiste ici, quand on pense aux lumières de la ville, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler de ce film extraordinaire avec Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville. Et en faisant l'exposition, c'est inviter les parents, les enfants, les jeunes, etc., à découvrir ce film qui est absolument une merveille.
quitte les salons, c'est ça, les salons principaux ici.
Attends, une seconde.
Il y a encore des choses à dire.
Une chose. On y va. Alors, une chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de mettre en conversation les œuvres et donc les artistes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et là, on a une artiste russe ici. Elle nous a envoyé le tableau qu'elle voulait mettre pour évoquer son village. Le titre, d'ailleurs, c'est « Mon village ». Et vous avez donc, on a reçu en photo, on a fait imprimer sur bâche, et c'est ce que ça donne. Ça donne un peu comme un patchwork, les représentations, les images qui lui viennent de son village. En conversation, il y a un comédien qui a interprété d'ailleurs lors du vernissage ce poème, et ce poème c'est « Mon village, t'en souviens-tu ?». Il est originaire de Juillac-le-Coq en Charente, et il va dire quelque chose que tout le monde ressent un jour ou l'autre quand il revient dans le village où peut-être il est né. Les maisons sont toujours là, encore les mêmes rues, plus de bonjour, de salut, je suis un inconnu. Je dis que je suis moi, mais les portes restent fermées. Je crie fort, c'est moi, Gérard, le fils du boulanger. Souvenez-vous, s'il vous plaît. Il pense en hâtant le pas, haussant les épaules. Encore un vieux fou.
C'est beau.
Bon, mais alors maintenant, on va passer dans le couloir où vous avez des choses très, très intéressantes aussi. Mais on est déjà attiré par quelque chose qui est très fort. C'est au bout du couloir. Vous avez une photo, mais évidemment transformée, parce que Harry Largesto, donc l'invité d'honneur, eh bien, il a des mises en scène, des choses qui se passent dans sa tête, certainement. Et puis, à partir de là, il photographie, il assemble, il colle. Ensuite, il fait une peinture et ensuite, il imprime. C'est comme ça, c'est sa démarche. Et là, vous êtes dans un supermarché en Finlande, un enfant, d'ailleurs gris, en gris, mais qui contraste avec des pop-corn, parce qu'il est dans un caddie exactement comme chez nous, mais il est emballé dans du film. C'est comme une marchandise. Et en regard, vous avez une installation d'une artiste donc de Limoges qui a eu son diplôme le 21 juin, qui est sortie de l'ENSA, et qui, elle, a mis un caddie. À l'intérieur, vous avez donc des poulets en porcelaine, vous avez une saucisse avec du ketchup, enfin de la moutarde par-dessus, vous avez des bocs de bière, et vous avez dans le caddie aussi un genre de chien ici. Donc, bien de consommation, les poulets, etc. L'autre côté, l'enfant, bien de consommation. Donc le parallèle était évidemment, c'était super, quoi.
Il y a le caddie aussi.
Il y a le caddie qui fait écho complètement. Et vraiment, pour dénoncer notre société et la marchandisation des individus, et en particulier des enfants, c'était évidemment très, très important de faire ressortir cette idée.
On continue, on rentre à la chambre bleue, comme on appelle cette
bleu,
pièce.
Bleu métallique, assez sombre d'ailleurs, parce que même si c'est sombre, eh bien, on voit que c'est une salle qui témoigne de comment on est aujourd'hui pisté. On a notre portable, on peut même pas savoir du tout, on peut pas rester inconnu, ni échapper à la surveillance. Aux vidéosurveillances, aux caméras. Donc vous avez des sculptures qui représentent l'errance, comment dans les grandes villes on passe les uns à côté des autres, on s'ignore.
C'est que nous évoquions tout à l'heure, exactement, la voiture.
Exactement. Complètement, et c'est vraiment très très fort. Elle est graphiste, mais elle travaille toujours d'ailleurs pour des grands romanciers. Elle a imprimé également.
On va dire le nom de l'artiste parce qu'on a eu l'opportunité aussi de l'interviewer. On va écouter plus tard un extrait. D'accord. Mais elle s'appelle comment ?
Nicole Valentin.
Eh bien, bonjour, je suis Nicole Valentin. J'expose en ce moment au château de Saint-Evant sur le thème de la ville. Et moi, je réalise des sculptures en béton. Donc, ce sont des sculptures qui parlent de l'errance de notre époque. Donc, des gens qui courent, qui ne savent plus où aller. Et qui petit à petit s'abîme. Enfin, donc on a des espèces de réparations, mais style béton. Et petit à petit, il y en a un qui se sauve et qui prend de la couleur. Et la couleur, elle est bleue, donc c'est l'espoir. Et peut-être que finalement, il finira dans l'IA. Qui se trouve à l'entrée et va se pousser sur lui des fleurs et des plantes. Voilà, et en parallèle, donc ça, ce sont des sculptures en béton, ancrées, bien ancrées dans le sol, bien dans la réalité, dans ce qui se passe en ce moment. Et en parallèle, je fais de la gravure sur bois que je tire sur voilage, donc en transparence, et représente des passants. Voilà, dans un espace un peu éphémère et de rêve, et des gens qui se rencontrent et passent et repassent dans une ville imaginaire.
On peut raconter à nos auditeurs, nos auditrices, le cadre pour illustrer un peu les propos, ces magnifiques châteaux de Saint-Auvent, qui c'est pas anodin comme décor.
Non, pas du tout. Alors, au château, en fait, Annick Debien, qui a fait la scénographie, a réalisé dans chaque pièce une façon donc de voir la ville et de voir notre vie d'aujourd'hui. Et là, je suis donc dans la pièce un peu de la surveillance. On va dire de l'enfermement, mais c'est quand même une pièce bleue.
La couleur est magnifique, bleu, turquoise, un peu tournesol.
Et nous sommes
perlés.
Attention, attends, non, touche pas, s'il te plaît.
Oui. Ce que j'ai peur que ça tombe. Après, on peut présenter aussi un petit peu des gens qui m'environnent. Voilà, donc un jeune peintre qui, lui, travaille un peu sur la surveillance. Et puis, tout à côté du voilage en transparence, on a deux portraits de Nuria, qui vient du Pérou et qui a deux puissantes têtes qui sont aussi sur des tons de gris et qui ont un côté un peu apeuré, non, un peu
nostalgique,
c'est triste, oui,
enfermement aussi,
avec un questionnement qui est très étonnant et qui est très très beau. C'est pour moi une découverte. Et on s'est rencontrés sur Facebook, car on a des amis communs. Et c'est comme ça que j'ai été invitée, que j'ai accepté avec vraiment... j'étais très contente. Et c'est vraiment des gens merveilleux.
Et vous avez donc ici impression sur voilage,
très
aussi
beau.
Très beau.
C'est très
avec, disons, où sont-ils, dans quel pays, il n'y a pas de nationalité, c'est la mondialisation. Là aussi, on a des personnes qui passent les uns à côté des autres dans l'anonymat. Et puis dedans, là aussi, vous avez alors un photographe, là aussi, qui va nous surprendre, parce que on n'imagine pas que ça, c'est des abris pour Caddy. Il grossit. Oui, c'est ça. Pas faire des... Mais par contre, dans les grandes surfaces, vous avez aussi les caméras et puis les lampadaires. On ne peut pas passer inaperçu. Ensuite, Raphaël Gallego, ici.
Qui est aussi bien connu des radios assivières pour nos chroniques Harlem.
Absolument. Et là, il représente, bon, là aussi, à nu, il présente là une caméra ou une vidéo, enfin, au moins la surveillance, et comment il est complètement mis à nu. Et on n'y peut rien. C'est comme ça. Hein, quand on arrive maintenant dans des villes, eh bien, on dit, bon, vous êtes borné, c'est-à-dire que où vous laissez votre téléphone ailleurs, mais autrement, vous êtes repéré. Puis, de toutes les façons, il y a les vidéosurveillances aussi qui existent. Donc, ce qu'on trouvait peut-être bizarre il y a 4 ans en Chine, en fait, est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. I vissa bord i fjällen Om jag ej kan finna dig Så får jag dig i stickvällen Aspen var mig Tu parlais pour la radio?
Non. J'ai aucune envie.